Sur la drogue, guerre totale, parce que nous sommes de tous les pays d'Europe celui où les jeunes fument le plus de cannabis. L'idéologie héritée de 68, qui a consisté à supprimer l'interdit social sur la drogue, est une catastrophe. La notion même de drogue douce est une absurdité. Si c'est une drogue, elle n'est pas douce.
Tous les lundis, à 21h, sur Radio Canu.
J'ai de la bonne herbe pour vous, hein ? La meilleure qualité de toute la région.
Cannabis Circus.
Si je suis élu président de la République, je ne légaliserai pas la drogue, je la combattrai.
Radio Canu.
Cannabis Circus. Cannabis Circus, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios.
Bonsoir.
Et donc nous sommes avec l'émission du cirque, la dernière de cette année 2014.
Ah bah non, peut-être l'année prochaine, peut-être lundi prochain il y en aura une autre.
Ah c'est pas sûr je pense.
Ah hein. C'est pas sûr, bon bah on verra, alors, on... au conditionnel, mais peut-être qu'il y en aura une quand même.
D'accord.
Peut-être sans toi, mais peut-être avec quelqu'un d'autre qui viendra allez. Pousser les boutons. Donc, voilà. Alors, cette semaine, dans l'actualité, si vous étiez un peu à l'écoute ou prompt à la lecture des différents quotidiens, et notamment nationaux, mais pas que, parce qu'il y a aussi des articles dans la presse quotidienne régionale. L'actualité était essentiellement composée en matière de drogue, et notamment de cannabis, plus particulièrement. Premièrement, de la fameuse étude du think tank Terra Nova, qui propose trois scénarios. Pour sortir de la prohibition, voilà.
On va revenir sur
longuement
ces articles de Terra Nova.
Parce que ça a fait couler beaucoup d'encre, en effet.
Et on a eu aussi un rapport du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques.
Bon, ça, on en a déjà parlé, c'était au mois de novembre.
Oui, mais néanmoins, quoi, c'est...
Oui, ça vient relayer ça, oui.
Ça vient se relayer petit à petit, voilà.
Tout. Oui, mais ça n'a pas fait la une de l'actu cette semaine.
Non.
c'est juste ça dans mon enchaînement que je voulais dire.
Mais c'est tout ce qui s'est passé en 2014, quoi, qui fait que ça avance, hein, avec l'Uruguay, bien sûr, avec les pays, les États, trois États américains. Voilà, quoi, on va revenir un petit peu sur toute cette actualité de 2014, qui a été quand même assez riche, qui nous laisse quelques espoirs au niveau international, très peu au niveau français, parce que bien que, peut-être que le think tank de Terra Nova va permettre d'évoluer là-dessus. Bah, on va revenir, voilà, tout au long de cette émission là-dessus.
Alors attends, juste deuxième sujet qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine, il faut quand même le dire, au moins ne serait-ce en introduction, c'est le projet de mise sur le marché d'une e-cigarette. Au chanvre, enfin, parce que ceux qui veulent la mettre sur le marché ne veulent surtout pas qu'on dise cannabis, sans THC, avec du CBD, qui a provoqué la sortie de Ségonde, la ministre de la Santé. Et donc, voilà, ça a aussi fait couler beaucoup d'encre. Voilà, c'était globalement ces deux sujets qui ont beaucoup fait parler cette semaine.
Et dont on va revenir tout au long de cette émission. Allez, on va partir avec...
Un peu de musique.
Un peu de musique, un petit peu de blues.
We'll be right back.
qui me plante. Oui, donc on vient de s'écouter Holy Smokes de Greg Servato.
Bien. Alors donc, on va commencer tout de suite par entrer dans le vif du sujet du fameux rapport du think tank Terra Nova. Alors, think tank, réservoir de pensées, d'idées. Voilà, je sais pas comment on peut traduire ça en français. Groupe de réflexion pour parler français, quoi.
Parce voilà, que oui, c'est un groupe de
cercle de réflexion, de penseurs.
De réflexion, de pensées. Et là, c'est des économistes.
Et puis des universitaires. Donc oui. C'est pas non plus, voilà, c'est pas n'importe qui.
Voilà, et les trois principales personnes qui ont signé ce texte. C'est donc Christian Ben Lakhdar, Pierre Kopp et Romain Pérez.
Voilà, alors Pierre Kopp, c'est un universitaire qui bosse donc à l'université Panthéon-Sorbonne et Ben Lakhdar à l'université Lille 2. Et Romain Pérez, c'est un membre de Terra Nova, mais visiblement qui n'est pas un universitaire. Alors juste pour rappeler quand même, Pierre Kopp et... Alors Pierre Kopp, surtout... C'est un économiste de la drogue qui, un économiste qui a écrit sur l'économie de la drogue, qui écrit sur le sujet depuis plus d'une quinzaine d'années, voire maintenant pas loin de 20 ans. Ben Lakhdar, c'est un peu plus récent. Enfin, on le connaissait un peu moins avant. Donc voilà, Pierre Kopp, Ben Lakhdar, c'est absolument pas des inconnus. Ils ont participé à des études et ils ont écrit dans leur champ de discipline, dans des rapports de l'OFDT. Donc voilà, ils sortent pas de n'importe où. Je pense que leur contribution au sein de Terra Nova, c'est parce que je pense que voilà, ils veulent faire avancer un peu les choses. En plus d'être que des universitaires qui font des rapports. Voilà, je pense que c'est un peu pour ça. Donc voilà, après, bon, on va rentrer un peu plus dans le vif de ce sujet, de l'étude en question. Qui n'a rien de nouveau, hein, encore une fois. Voilà, rien de nouveau. Bon, alors, si, quand même, un peu, parce que, pour aller vite, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup. En gros, ils imaginent trois scénarios de sortie de la guerre à la drogue, de la coûteuse et inefficace guerre à la drogue. Et comme différents pays actuellement, notamment un seul pays, plutôt l'Uruguay, mais différents États des États-Unis ont évolué dans leurs pratiques. Ils veulent et qui donc ont laissé place à des approches fondées sur la tolérance au cannabis, voire dans certains cas la légalisation, comme Colorado, Washington et le pays l'Uruguay. Donc ils se posent la question pourquoi notre pays ne devrait-il pas à son tour envisager un tel tournant idéologique et politique. Des arguments qui ont conduit au revirement dans l'Amérique d'Obama, par exemple, sont tout aussi valables chez nous. De fait, la politique de répression est en échec. Non seulement la prévalence du cannabis ne diminue pas significativement, je trouve qu'ils sont gentils, on pourrait même dire qu'elle augmente continuellement, elle reste même une des plus élevées d'Europe. Voilà.
Voilà, donc il se pose la question, comment expliquer cette situation
paradoxe.
Une politique de répression très très forte et par contre totalement inefficace. Donc voilà, c'est il faut quand même se poser la question de pourquoi ça coûte si cher pour aussi peu de résultats, voire pour des résultats négatifs. Donc voilà, c'est déjà une bonne base. C'est un petit peu là-dessus qu'aussi sont les différents cadres de l'ONU.
Voilà. Donc ils rappellent, avant de proposer trois scénarios, en fait, parce que c'est ça le cœur de leur travail, hein, c'est de proposer trois scénarios. Avant de proposer ces scénarios, ils évoquent un peu les chiffres de ce que ça peut coûter. Donc quelques 568 millions d'euros par an qui sont directement consacrés à la lutte contre le cannabis et qui ne vont ni à d'autres missions utiles que pourraient être la prévention, le soin, la réduction des risques, ni aux politiques de prévention et d'accompagnement pour les usagers dépendants. Et donc, dans ce contexte, trois scénarios sont envisagés par eux. Premier scénario, la dépénalisation de l'usage du cannabis.
Voilà, donc c'est un peu ce qui se fait dans d'autres pays européens, voire en Hollande.
Voilà. Donc dépénalisation de l'usage, ça veut dire de la possession de petites quantités et de l'utilisation à des fins privées. Bon, Voilà. Dépénaliser l'usage, ça ne veut pas dire dépénaliser le commerce. Voilà. Pas du tout. Parce que dans pas mal d'articles, on le reverra, et plein de, ils ont tout mélangé encore, hein, dans certains articles. Alors, je parle même pas du progrès, j'ai pas mis l'article, mais alors c'était assez fort, dans le progrès de samedi. Deuxième scénario, la légalisation de la production, de la vente et de l'usage dans le cadre d'un monopole public, un peu comme voilà. En Uruguay.
Tout à fait, c'est ce que j'allais rajouter.
Voilà. Et enfin, troisième scénario, légalisation de la production, de la vente et de l'usage dans un cadre concurrentiel. Donc, voilà.
Ce qui se passe dans les États des États-Unis qui ont légalisé Colorado voilà. Et,
Washington.
Et Washington.
Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, nos universitaires, là ? Eh bien, ils ont tenté de mesurer l'impact de chaque scénario sur le nombre d'usagers, les quantités consommées, les finances publiques, c'est-à-dire dépenses et recettes, et l'évolution du marché noir. Puisque la plupart des anti-prohibitionnistes argue que le meilleur moyen pour couper l'arbre sous le pied du marché noir à des mafias, des trafiquants illégitimes, ce serait justement de changer de politique et notamment de légaliser. Mais comment ? Donc eux, ils proposent donc ces trois scénarios. Alors, en ce qui concerne le premier scénario, c'est-à-dire la dépénalisation de l'usage, ils nous disent que ça permettrait de réduire fortement le coût budgétaire de la répression. Mais par contre, ça ne permettrait pas de contrôler le niveau des prix du cannabis, qui est un déterminant essentiel de la demande, et est donc susceptible d'augmenter la prévalence du cannabis au cannabis, en réduisant son coût psychologique d'acquisition. Et ils estiment que cette hausse potentielle pourrait être de 16% du trafic, pour le trafic pourrait être de 16%, et qu'il pourrait y avoir plus de 12% du nombre d'usagers quotidiens. Voilà, à prix de vente inchangé.
Donc, ce qu'ils appellent l'usager quotidien, c'est les 550 000 fumeurs qui sont considérés comme quotidiens. Voilà, donc on est à 500 000 en France d'usagers quotidiens, d'après les chiffres, les évaluations. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un chiffre déjà qui est assez bas, qui est à notre avis sous-évalué. Et la deuxième chose, c'est quand même, sur un chiffre sous-évalué, ils estiment qu'il y aura 6 000 consommateurs de plus.
Oui. Bon, il y a plein de choses. On commentera un peu, on va lire, et puis on commentera un peu après, parce qu'il y a pas mal de trucs, moi, où je suis pas spécialement d'accord. Hein,
voilà, tout à fait.
Disent, c'est clair. Hein.
Juste pour rester dans le nombre d'utilisateurs, dans les utilisateurs réguliers, donc là on serait plus entre 2,6 à 4 millions d'utilisateurs réguliers, donc non pas quotidiens, mais au moins hebdomadaires ou mensuels. D'ailleurs, je pense que si on va au mensuel, on devrait monter même jusqu'à 7 millions. Voilà, là aussi on a des divergences avec eux sur les chiffres de base.
Ouais, alors... Peut-être quand même, j'ai pensé, en tout cas pour leur défense, je ne sais pas comment on peut dire. Bon, c'est difficile hein, de faire toutes ces évaluations, extrapolations. Je pense qu'ils ont voulu produire un rapport concis, synthétique, clair, qui puisse peut-être éventuellement guider l'action publique.
Voilà.
Donc bon, ils ne font pas trop dans le détail. Quoi.
Et ils se sont basés sur les rapports de l'OFDT.
Aussi.
Qui font à peu près... Voilà, sont à peu près justes, même si, voilà, nous, on pense qu'ils sous-évaluent le nombre de consommateurs.
Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est clair, et puis bon, après, on le sait bien, un système d'interdiction, de clandestinité, ne favorise pas le comptage précis des utilisateurs réguliers, quotidiens, occasionnels, très occasionnels, enfin, bref.
Bon. Voilà, donc là, on a vu le scénario 1, donc...
Voyons maintenant le 2.
Voyons le 2 maintenant.
Donc le 2, c'est la légalisation de la production, de la vente et de l'usage du cannabis dans le cadre d'un monopole public, donc un peu comme ce qui va se faire en Uruguay. Donc là, d'après ce qu'il dit, ça permettrait donc de fixer le prix à un niveau plus élevé qu'aujourd'hui, de manière à garantir une relative stabilité du nombre de consommateurs et du volume consommé. Cette option générerait des recettes fiscales significatives pour l'État, environ 1,3 milliard d'euros par an. Ça entraînerait parallèlement une réduction des dépenses publiques liées à la répression. Et l'impact budgétaire total pour un prix du cannabis majoré d'environ 40%, 40%, vous avez bien entendu, par rapport au prix de vente actuel sur le marché noir. Donc toutes ces économies feraient que l'État économiserait 1,8 milliard d'euros par an pour un nombre de consommateurs identique. Mmh. Voilà.
Voilà, donc eux, ils travailleraient dans deux cas, en deux temps. Hein, dans un premier temps, le prix du cannabis resterait le même qu'actuellement. Le tout d'assécher
le
marché noir. Ouais. Et ensuite, ils élèveraient le pourcentage des taxes progressivement. Puisque, a priori, et les études sur le tabac l'ont montré, c'est une des seules façons pour réduire le nombre d'utilisateurs. Donc voilà, petite preuve pour le scénario 2. Bon, après, ce qu'ils disent par monopole d'État, on ne sait pas exactement sous quelle forme cela prendrait. Mais bon, ça serait sans doute un petit peu mieux que ce qu'il y a actuellement.
Ouais. Ensuite, troisième scénario, légalisation dans un cadre concurrentiel, donc plutôt modèle nord-américain, quoi. États-Unis, Colorado, Washington. Alors là, c'est le scénario 3, et ils disent que là, par contre, ça s'accompagnerait probablement d'une baisse significative des prix, et du même coup, d'une hausse assez forte du nombre de consommateurs quotidiens et du volume consommé. Par ailleurs, ça ferait baisser très sensiblement les dépenses publiques liées au cannabis, et ça permettrait surtout à l'État de récolter 1,7 milliard d'euros de recettes fiscales. Mais selon eux, l'inconvénient de cette solution est naturellement qu'elle ferait augmenter de manière très significative le nombre d'usagers dans le pays. Mmh. Voilà.
Bah, nous,
à mon avis, c'est complètement faux. Ça.
c'est sans doute faux. Bon, alors nous,
mais bon, ils sont un peu obligés de le dire, j'ai l'impression. J'ai l'impression c'est ça l'argument.
C'est peut-être pour mieux faire passer le scénario 2. Ouais. Sachant que dans le scénario 3, alors c'est vrai que s'il y a une baisse du prix, etc., on peut considérer qu'il peut y avoir une augmentation du nombre de consommateurs. Ça, c'est peut-être pas totalement faux. Nous, par contre, quoi, moi en particulier, je pense que tu me rejoins là-dessus, on est contre cette libéralisation à tout craint parce que on le voit pour tous les produits, hein, dès que les industries et les lobbies ou de grandes entreprises s'y mettent, la qualité s'en ressent. Les produits mis pour faire pousser, c'est vraiment la production à outrance. Donc tout est bon, beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides, etc. Et donc des produits sans doute moins bons que s'il y a un contrôle, je dirais, étatique avec des préconisations un peu fortes, quoi, et très précises sur la façon de faire pousser, sur des herbes plus bio, voilà. Et je pense que via un monopole d'État, on arriverait plus facilement à ce résultat.
Alors oui, je suis à moitié d'accord avec toi. Non, mais sur le principe, je suis d'accord. Après. Comment dire, production, légalisation, machin, dans le cadre d'un monopole public, pourquoi pas, mais ça dépend comment ils le font aussi, parce que c'est pas le tout, il faut quand même des gens compétents qui s'occupent de ça, y compris au niveau, je dirais, très terre à terre de la culture, il faut quand même avoir des notions un peu de botanique, quoi, pour s'occuper de tout ça. Je pense que ça ne sera pas le plus difficile, mais bon, je ne sais pas. Disons que plus le temps passe, moins j'ai confiance dans les pouvoirs publics, quoi. Tellement ils nous déçoivent par leurs. Je ne sais pas comment dire, leurs insuffisances. Que j'ai des doutes. Moi, ce qui m'embête un peu dans tous ces trois scénarios, c'est qu'à aucun moment on parle d'autoproduction. En fait, là, je suis un peu, ouais, ça me laisse sur ma faim. En fait, voilà, ce que je veux dire, c'est que si effectivement il y a une légalisation dans un cadre, le cadre d'un monopole public, pour qu'on nous, qu'on mette à la disposition des usagers des produits de piètre qualité, ou trop fort ou pas assez fort, mais bref, pas de diversité dans l'offre non plus, sans possibilité d'autoproduction, avec un encartage ou une déclaration à la police, à la préfecture, parce que ça se fait comme ça en Uruguay, hein, avec qu'est-ce qu'on peut encore imaginer, ouais, pas de choix, quoi, pas de choix, dans des officines qui ressemblerait ni à un coffee shop, ni même à un bar qui serait pas convivial, mais uniquement dans un espèce d'endroit comme ça, clinique, où on irait chercher son shit. Ou... Bref, on peut imaginer tout ce qui peut mal aller, en fait, dans l'organisation de tout ça.
Oui, bah,
et moi, je me pose des questions, quoi. Ils sont tellement... ils veulent tellement pas y aller, on avance tellement à reculons, ou pas du tout, ça en Uruguay visiblement ils ont compris quand même, hein. Et du coup en Uruguay par exemple ce qu'ils veulent faire, alors je sais pas s'ils ont un projet plus long terme, moyen terme, mais ce qu'ils disent c'est qu'il faut commercialiser le produit au même prix qu'au marché noir, pour justement assécher le trafic. Là on nous parle de 40% du prix, d'un prix supérieur de 40% au prix du marché noir.
C'est dans un deuxième temps, mais après il faut voir un peu à quel prix il l'évalue, à 6 € le gramme quand même.
Ah, mais où on trouve ça à 6 € le gramme? Pareil, là, leur estimation, elle est, à mon avis, elle déconne.
Je suis assez d'accord. C'est pour ça que j'en parle.
Voilà, merci. Merci de me donner l'occasion de
voilà,
vous péter.
Donc si on l'imagine, vu que 6 €, c'est quand même, il me semble, en dessous du prix du marché.
Mais où ils ont trouvé ça, quoi?
Il me semble que c'est en dessous du prix du marché.
Mais, oui.
Après, il y a le marché d'herbe d'extérieur, qui peut être un peu en dessous, et le marché d'herbe dite d'intérieur, qui est souvent un petit peu au-dessus.
Non, mais...
Et si, surtout, on va en Hollande, elle est quasiment au double, hein.
Oui, après, elle est au double parce qu'elle correspond, je dirais, au prix du marché hollandais. Les Pays-Bas, les prix en général aux Pays-Bas sont plus élevés qu'en France.
Mm-hmm.
Voilà, pour manger, c'est plus cher. Pour se loger, c'est plus cher. Je crois que l'essence est plus chère qu'en France aussi. Voilà, bon, le niveau de vie des Pays-Bas n'est pas le même que celui de la France. Mais aujourd'hui, en France, d'ailleurs, il y a eu des travaux qui ont été publiés à ce sujet, qui me semble étaient assez proches du prix réel de la rue, hein. Aujourd'hui, il n'est pas rare de trouver du haschich, même de mauvaise qualité, ou des herbes de moyennement ou bonne qualité, à des prix supérieurs à 10 €, voire 12 ou 13 € le gramme, ou même 15 €. Donc 6 € le gramme, je ne sais pas où ils ont été voir ça.
Voilà, donc si on est à 40% au-dessus de 6 €, on sera à 10 €, on sera au prix du marché, quoi.
Ouais, aujourd'hui, quoi.
Voilà, donc, non, après, ça sera voilà, quand on en sera à discuter de...
Oui, tout à fait,
si
tu as raison.
On aura déjà beaucoup avancé, quoi, mais...
Ouais, ouais.
L'idée, comme ça, n'est pas mauvaise, hein. Moi, pour moi... Elle rejoint d'une certaine façon certaines pensées du cirque.
Alors, oui, oui, oui.
Voilà, d'une certaine façon, parce que il y en a quand même quelques-uns au cirque qui ne sont pas très étatistes. Et,
oui.
et donc voilà, ce n'est peut-être pas la façon la plus adéquate, mais ce serait la moins pire. Nous, ce qu'on préférerait, c'est que ça soit uniquement à des associations et qu'il n'y ait pas de grosses multinationales qui puissent venir dessus.
Et oui, parce que même s'il y a un contrôle et un monopole de l'État, qui c'est qui va fournir ce monopole étatique?
Voilà, parce que ils ont été gentils, parce qu'ils ont évalué à 13 000 personnes. Et 13 000 personnes, c'est uniquement les gens qui vendent. Ce qui est, à mon avis, bien en dessous de la réalité, parce que quand on regarde déjà le nombre de coffees en Hollande, pour un pays 10 fois plus petit ou 10 fois moins peuplé que la France, il y a déjà plus que 13 000 personnes qui vendent via les coffee shops. Donc voilà, on n'est pas dans une totale réalité.
Voilà, mais en même temps, il n'écarte pas la possibilité de créer plus d'emplois dans une filière plus élargie qui se rapprocherait de ce que nous, nous appelons le champ global.
Voilà, parce que c'est vrai, donc ils reconnaissent que 13 000, c'est uniquement la vente. Hein. Ils ne s'occupent pas ni du transport, ni de la fabrication, ni de la mise en sachet, etc. etc. ce qui crée aussi encore beaucoup plus d'emplois. Et moi, nous, les estimations qu'on fait, elles seraient plutôt au-dessus de 100 000, voire à 200, voire 300 000 personnes qui pourraient avoir un emploi grâce à la légalisation. Donc, voilà, moi, je pense qu'ils sont bien en dessous de la réalité.
Ouais. Après, encore une fois, bon, peut-être que comme ils doivent travailler sur des données, je dirais plutôt officielles, universitaires, bon, qui sont loin d'être exactes et fiables. Du coup, bon, peuvent pas trop non plus extrapoler. Je sais pas. Bref, en tout cas, ça a quand même le mérite d'être, d'exister, d'être publié, et ça a fait quand même couler pas mal d'encre. Alors on va peut-être partir un peu en musique et puis on va s'intéresser un peu à tout ce qui s'écrit dans
voilà, toutes les réactions des,
médias,
des
ouais.
gens bien, des gens un peu moins bien. Allez, on va continuer avec un petit peu de blues.
Just give me one more sniffle, another sniffle of that dough. Just give me one more sniffle, another sniffle of that dough. I'll catch a cow like a cowboy and throw a bull without a rope. Henry Ford or John D. ever had. I bit a dog last Monday, and 40 doggone dogs went mad. Feels like a fighting rooster, feeling better.
Yes, Et donc, nous venons de nous écouter Dub Head Blues, Victoria Spivey.
Victoria comment ?
Spivey.
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 C'est V-E-Y à la fin ?
Yes.
Ah, tu vois, j'avais deviné. Donc, elle. C'était elle. Alors, donc, ce rapport de Terra Nova a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup d'articles dans la presse. François, Libération, Libération, un journaliste, Libération, Michel Henry, Le Monde. Alors, Le Monde, qui a même fait... dans l'éditorial du Monde, cannabis de point pour la légalisation. Voilà, je me demande si et ils ne se sont pas retrouvés un peu cons après la une du New York Times cet été. Le New York Times qui titrait fin août justement un article un peu similaire, genre pour la légalisation du cannabis aux États-Unis. Mm-hmm. Et du coup, suite à la publication de ce rapport, Le Monde fait un peu pareil finalement. Faut-il dépénaliser la consommation de cannabis, voire la légaliser ? Deux rapports très solides viennent de reposer la question. Alors le premier était le rapport du comité d'évaluation et de contrôle politique public consacré à la lutte contre l'usage des substances illicites, déposé à l'Assemblée nationale le 20 novembre dernier, avec deux auteurs, hein, une députée socialiste Ledin et puis un député UMP Marcangeli. Et ensuite, l'étude réalisée par Terra Nova, dont nous publions aujourd'hui les conclusions. Donc, on va pas revenir en détail sur ce que dit le rapport de Terra Nova, parce qu'on vous a parlé directement du rapport. On va pas en reparler dans les articles, mais en tout cas, plutôt s'attarder aux autres choses qui sont dites dans la presse ou les réactions. Donc là, Le Monde, à juste titre, nous explique que ce débat a le don de tétaniser les responsables politiques, quiconque s'avise de remarquer que la prohibition en vigueur n'a pas empêché la banalisation de la consommation de cannabis en France est immédiatement voué aux gémonies et accusé de graves irresponsabilités, notamment à l'égard de la jeunesse. Le dernier en avoir fait l'expérience à ses dépens est l'ancien ministre de l'Éducation nationale Vincent Peillon en 2012. Mais la question est pourtant tout sauf anecdotique. La France est en effet l'un des pays développés qui dispose de la législation la plus sévère contre le trafic et l'usage de stupéfiants. Depuis la loi de 70, la consommation de cannabis est un délit pénal passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Cette politique répressive est justifiée par des impératifs de santé publique. La consommation précoce et plus encore régulière de cannabis est dangereuse, tout particulièrement pour les jeunes. Selon toutes les études scientifiques récentes, elle provoque un ralentissement du développement intellectuel et accentue les risques de troubles psychiques. Alors là-dessus, il faut minorer, parce que c'est pas toutes les études récentes qui disent ça.
Tout à fait.
Après, je me demande s'ils disent pas ça pour parler des jeunes, par contre. Je pense que c'est plutôt ça le lien.
Et dans la jeunesse, par contre, ce qu'il faut dire, hein, c'est que toutes les drogues dans un cerveau en formation ont encore des effets plus importants que chez les adultes. Et donc, c'est vrai... en partie pour le cannabis, mais c'est surtout vrai pour l'alcool, qui fait encore plus de ravages que le cannabis dans le cerveau des jeunes.
Voilà. Et Le Monde de continuer, une politique pourtant inefficace. Pourtant, malgré son arsenal législatif, la France est, avec le Danemark, le pays européen où l'usage du cannabis est le plus répandu. Un Français sur trois en a fait l'expérience, un collégien sur 10 et 2 lycéens sur 5, tandis que 550 000 personnes en consomment quotidiennement. Bref, la politique répressive en vigueur est inefficace. En outre, elle est coûteuse, car elle mobilise une part significative de l'activité de la police, entre interpellation et garde à vue, et de la justice, pour une dépense publique évaluée à 500 millions d'euros par an. Alors, c'est pas dit, mais moi je le rajoute, il faut quand même savoir qu'en France, les affaires liées au cannabis, c'est un tiers du contentieux juridique national dans les tribunaux. Un tiers de toutes les affaires jugées en France dans les tribunaux concernent du cannabis. C'est quand même hallucinant.
Oui, donc grâce à la légalisation, on allégerait toutes les juridictions. Un tiers des prisonniers sont dus à des consommations, puisqu'il y en a,
mais oui.
Ou des trafics. Donc là aussi, ça résoudrait le problème de la
population carcérale.
Voilà.
C'est l'encombrement des tribunaux.
Non, mais c'est tous les effets induits. Et je pense que là, même dans le Sing Sang, ils ont pensé qu'à un quart de tous les effets induits et de tout ce qu'il y a derrière.
D'accord.
Et que les bénéfices sont bien plus grands que ceux annoncés encore.
Mm-hmm. Donc, voilà, pour une dépense publique évaluée à 500 millions, enfin, la prohibition a favorisé le développement d'un marché clandestin de type mafieux. Et donc, comment sortir de l'impasse ? Plusieurs pays qui, comme la France, avaient déclaré la guerre à la drogue, ont assoupli leur législation ou y réfléchissent, soit en dépénalisant la consommation et la détention de petites quantités de cannabis, comme aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal, en République tchèque, une vingtaine d'États des États-Unis, soit même en organisant, en contrôlant de véritables filières de production et de distribution de cannabis, dans l'État de Washington ou au Colorado par exemple. La Commission mondiale sur les drogues de l'ONU, elle-même, travaille sur le sujet et a souligné l'intérêt d'une légalisation contrôlée. De fait, si la dépénalisation permet une répression mieux calibrée et plus applicable, elle présente le risque d'encourager la consommation et n'élimine pas le marché noir. Donc, comme ce que vient de dire, donc comme ce qu'on a lu dans le rapport directement de Terra Nova. En revanche, à l'instar de ce qui existe pour le tabac, une légalisation contrôlée de la puissance publique, par la puissance publique, pardon, pourrait permettre de contrôler les prix, donc une bonne part de la consommation, de mettre en place une vraie politique de prévention, d'assécher l'essentiel du marché clandestin. Enfin, par effet ricochet, de générer des recettes fiscales. Au-delà des postures mécaniques et des anathèmes moralisateurs, le sujet mérite un débat public. La légalisation du cannabis doit désormais être envisagée en France. Voilà un peu ce qu'on pouvait lire dans l'éditorial du Monde. Et je vous assure que c'est quand même pas tous les jours qu'on peut lire un éditorial comme ça dans le Monde. Donc voilà un peu... alors dans le Monde, d'autres articles, hein, cannabis, les effets objectifs de la légalisation. Attends, je vais tous les dire et puis après on viendra dans le détail. Plus tard, autre part dans le monde, ça c'était le 19, encore le 19 décembre, cannabis, pourquoi la répression n'est sans doute plus la solution, par Samuel Laurent. Les bénéfices objectifs, c'était Laetitia Clavreul. Le Figaro également, alors avec une interview de Serge Le Bigot, président de Parents contre la drogue, ou oui, Parents contre la drogue, qui d'ailleurs pose des questions pas toutes débiles, même s'il y en a beaucoup. Des réactions, l'UMP... et par l'intermédiaire du secrétaire national à l'UMP, Bruno Béchiquiza, Ciotti, Rachida Dati, Ramayad, pas mal de personnes ont réagi à cet article.
Donc j'allais juste dans les réactions.
Attends, j'ai pas fini. Alors, dans le Journal du Dimanche également, des réactions d'addictologues, de professionnels de l'addiction. Voilà, j'ai fait le tour, excuse-moi.
Voilà, moi je voulais juste revenir sur la phrase les postures mécaniques et des anathèmes moralisateurs. Oui. Donc il y avait trois noms surtout qui sont dans, je crois que c'est dans Libération.
Oui, dans Libé, il y a eu des articles, voilà, Michel Henry lui-même.
Il parlait d'Éric Ciotti, ça nous étonne pas, vu le gugus.
Non.
Donc rappeler, lui qu'est-ce qu'il dit, que c'est totalement irresponsable et scandaleux. Cela enverra un message dévastateur pour la jeunesse de notre pays. Donc,
toujours
vraiment,
les mêmes arguments d'ailleurs.
Toujours les mêmes arguments, une posture. Voilà, c'est de la posture mécanique.
Un réflexe c'est pavlovien, comme le dit Lovenstein.
Voilà, Rachida Dati qui dénonce le cynisme de cette proposition. Mais elle est quand même ouverte à revoir la législation, mais en aucun cas à légaliser ce poison. Voilà, autant.
Alors elle se pointe avec sur des plateaux de télé avec des articles de mode, des vêtements de mode avec des grosses feuilles de cannabis. Ah, elle fait ça elle par contre, par exemple. Mais
voilà.
Non, enfin bon,
et
ouais,
le dernier,
elle est
championne. Donc ça c'est l'UMP donc qui est contre, hein, et le FN avec Florian Philippot aussi extrêmement défavorable. Pour des raisons de morale comme de santé, voilà. Voilà. Je ne suis pas pour une dépénalisation et pour une.
Non, mais...
Voilà, c'est, voilà où il s'arrête. Après, bon, il y a ceux qui sont pour. Donc, il y a ma mère qui revient
comme
là-dessus.
Comme d'habitude.
Il y a Daniel Vaillant qui revient aussi là-dessus. Voilà, l'un est pour une légalisation contrôlée. Donc, c'est Daniel Mamère.
Conformément à son rapport de 2011.
Et Daniel Vaillant demande, il faut sortir de l'hypocrisie. Donc, il est tout à fait dans la ligne. Et au moins, il a changé d'avis et maintenant, il continue dans la même ligne. Ce qui est bien.
Voilà. Juste pour taper un petit coup sur le FN. C'est génial ce qu'ils disent au FN. Tout le monde sait que c'est vraiment le parti avec des représentants bien, bien, bien hypocrites. Hein, homophobe, mais avec des leaders des leaders homos qui se planquent pour pas qu'on les voit, et puis dès qu'on les voit, on nous agresse sur notre vie privée, opposés au mariage pour tous, enfin voilà, non mais... Bravo le Front National. Donc je pense qu'il y a plein de fumeurs de pétards au Front National en fait.
Tout à fait.
Tout voilà.
À fait.
Tout simplement. Tout à fait. C'est souvent d'ailleurs les plus anti qui sont bien souvent les plus hypocrites et voilà, juste pour le dire, ça fait du bien.
Qu'est-ce qu'on peut rajouter dans tout ça peut-être l'article de Michel Henry. Qu'est-ce qui nous
Oui, je pense qu'on peut s'attarder un peu sur l'article de Michel Henry qui est un journaliste qui souvent parle de ces choses-là de manière très intéressante.
Voilà, bah lui il développe un petit peu tout l'argent qu'on gagnerait tout l'argent dépensé à tort et à travers par la police
économisé,
là-dessus.
Ouais. Oui.
Donc il parle de 568 millions et donc entre autres avec 150 000 personnes interpellées, mises en garde à vue.
En 2013. Hein.
En 2013, oui.
Donc aujourd'hui avec le PS aux affaires et Manuel Valls avant ministre de l'Intérieur, maintenant Premier ministre, il y a vraiment une continuité... j'irais bien stable au niveau de la répression, bien fidèle à la dynamique qui est enclenchée par Chirac, puis par Sarkozy entre 2002 et 2007, puis entre 2007 et 2012. Bravo.
Voilà, donc Michel Henry, donc lui, dit qu'il se rapproche quand même, leur système se rapproche de l'Uruguay, avec quelques bémols, parce que justement, sur le prix, au moins l'Uruguay, lui, ça s'aligne sur le marché noir, alors que là, on veut le vendre plus cher. Donc Michel Henry s'interroge là-dessus, si ça sera vraiment une bonne solution. Et voilà, et la conclusion au final, donc les trois personnes de l'étude suggèrent de mieux accompagner et de contrôler la consommation de cannabis en sortant ce marché de la clandestinité, permettant ainsi une maîtrise du nombre de consommateurs par les prix, et déployer une véritable stratégie sanitaire pour prévenir les comportements à risque tout en accompagnant les populations les plus exposées. Voilà, c'est ajoutant cet aspect être particulièrement critique pour les jeunes qui sont aujourd'hui les véritables victimes de l'absence de régulation du marché de cannabis. Voilà, donc lui est très réaliste, hein. Et c'est quand même le sujet le plus intéressant de cette proposition, c'est qu'en sortant le chanvre ou le cannabis de la clandestinité, en laissant les consommateurs libres, on pourra plus facilement voir les consommateurs qui ont des problèmes avec ce produit, parce qu'il y en a quelques-uns, mais un très faible nombre. Et je pense qu'on pourra justement beaucoup mieux accompagner les personnes qui ont des soucis avec des problèmes d'addiction. Et d'ailleurs, ces gens qui ont des problèmes d'addiction en ont en général, quel que soit le produit auquel ils sont confrontés.
Oui, là, en plus, souvent, c'est pas que par rapport à un produit, c'est souvent par rapport à une conduite générale ou certains aspects de la vie. Voilà. Sachant que, en fait, on est tous plus ou moins sujets à l'addiction. Hein. Ça aussi, c'est un truc dont il faut avoir à l'esprit. Il n'y a pas des gens qui peuvent être addicts et des gens qui ne le seront jamais. Ça marche pas forcément comme ça non plus. Voilà, juste pour le rappeler, hein. L'addiction, ça concerne pas qu'un produit, ça concerne pas non plus
une personne et un moment. Ouais. La même personne, voilà. Selon le moment où elle est, si elle est bien, si elle est pas bien, ne recevra pas les produits de la même façon et
tout à fait.
Ne dépendra pas de la même façon. Alors après, on a aussi un interview de Le Bigot. Alors Le Bigot est quelqu'un qui est président de l'association Parents sans drogue.
Parents donc, contre la drogue.
Parents, voilà, contre la drogue. Alors lui, il y a des articles où il est interviewé.
Dans le Figaro notamment.
Où il dit pas grand chose. Il dit le cannabis est une drogue. Oui. Le cannabis a des effets dangereux. Oui. Donc il faut l'interdire.
Voilà. Bravo. Interdisons vite l'alcool et le tabac.
Voilà, donc sur la même chose, l'alcool est une drogue, oui. L'alcool est dangereuse pour la santé, oui. Donc il faut interdire l'alcool. Moi, il n'y a pas de problème. S'il va jusqu'à là, sa pensée est claire, elle est logique, elle est entière. Moi, je reconnais à ceux qui sont contre toutes les drogues, au moins, je ne suis pas d'accord avec eux, je les combattrai sur le plan des idées, mais au moins, je reconnaîtrai en eux une pensée
cohérente. Ouais.
Cohérente. Alors que ceux qui sont pour l'alcool et contre le cannabis sont totalement flous dans leur tête et incohérents.
Le Bigot avait répondu à cette question, je ne me rappelle plus sa réponse, donc je ne vais pas lui faire un procès d'intention.
Voilà, par contre, tu as remarqué qu'il posait quand même des questions intelligentes.
Ils ne sont pas idiotes, ouais. Parce que moi, je me les suis posé aussi, et je pense que je ne suis pas le seul. Parmi ceux qui ont lu le rapport de Terra Nova et qui ont pu juger ces propositions intéressantes. Donc en fait, voilà, il pose quand même... alors j'ai pas voulu lire j'ai pas envie de vous lire les mauvaises questions, parce qu'on lui tape déjà souvent sur la tête.
Donc ouais, les questions de morale, les questions... Ouais. Est-ce que la question économique est laquelle est le plus important, voilà. Je te laisse continuer.
Alors bon, juste pour quand même lui taper un tout petit coup dessus, il dit que ce sujet revient de manière cyclique environ tous les 2 ans et qu'il serait relancé par quelques attardés de 68. Voilà, alors lui, vu son nom et vu un peu ses propositions et ses positions sur la morale, j'ai presque envie de dire que lui, c'est un peu un attardé du Concile de Trente. Hein. Mais bon. Alors, il dit quand même des choses pas bêtes, quoi. Si on autorise, quel taux de THC sera autorisé pour le cannabis en vente libre? Quel taux de THC? Ouais, c'est une bonne question, ça.
Tout à fait.
Et quelles informations est-ce qu'on va utiliser pour déterminer quel devrait être le taux de THC? Voilà, bonne question également. Et comment on fera pour vendre le cannabis moins cher, moins cher que les dealers en le taxant? Et les taxes générées par l'alcool et le tabac sont loin de couvrir les dépenses de santé, encore moins les coûts humains. Du coup, comment est-ce qu'on va faire pour que ça marche mieux que pour le tabac et l'alcool?
Juste une chose quand même, pour moins cher que les dealers, quand on regarde le prix de vente chez les agriculteurs marocains et le prix se fait surtout pendant le voyage. Et donc, tant que l'introduction, le commerce sera régulé par l'État, et s'il ne passe pas par l'État, c'est interdit et qu'on risque un peu les mêmes peines, voilà, la question est est absurde, quoi.
D'accord. Donc, on peut trouver une réponse.
Oui, là-dessus, ça ne me gêne pas, quoi. 90% du coût du cannabis va aux mafias. Donc, ça ne me gêne pas qu'il aille à l'État, personnellement.
Tout à fait. Donc voilà un peu quand même les quelques questions qu'il se pose. Alors après, on lui pose quand même la question, mais qu'est-ce que vous préconisez? Parce que c'est quand même l'échec, hein, cette répression. Alors lui, il dit qu'il faut absolument tout axer sur la prévention et qu'en France, il n'y a pas de prévention, ce qui n'est pas faux non plus.
Tout à fait.
Après, il délire un peu, il dit que si on faisait vraiment de la prévention correctement, ça serait bien, et notamment si les parents, les associations de parents avaient le droit d'aller à l'école, ça changerait les choses, et qu'aujourd'hui, seules les associations qui prônent la légalisation du cannabis peuvent y aller, et que du coup, on s'étonne du résultat. Alors, je pense qu'il délire bien quand même. Alors, il cite en exemple, et là, il se trompe par contre complètement, regardons de plus près un pays qui a réussi sa politique de drogue, la Suède. Ben non, monsieur Le Bigot, hélas, c'est en train de sortir un petit peu, on n'en entend encore pas tellement parler, mais la Suède est en train de s'apercevoir que sa politique de répression et d'abstinence à tout prix a favorisé, comme un peu partout dans tous les pays qui ont mis en place ces méthodes, a favorisé le développement du VIH, des infections sexuellement transmissibles, des hépatites, puisque la Suède est très en retard au niveau de la réduction des risques. Non, monsieur Le Bigot, la Suède n'a pas réussi sa politique anti-drogue. Ils ont actuellement des gros problèmes de santé publique à ce niveau-là, et ils sont un peu coincés parce que eux, par contre, là, à ce niveau-là, ils se retrouvent un peu dans la position de la France à la fin des années 80. Alors ça va évoluer certainement, parce que je pense quand même que la Suède est un pays démocratique qui fonctionne pas si mal, donc ils vont s'en sortir. Après, il y a d'autres mécanismes en Suède qui permettent de lutter contre l'appétence à une substance psychotrope et addictive. C'est un pays qui investit énormément sur son éducation, énormément sur sa couverture sociale et sa protection sociale. Et donc, le contexte n'est pas le même également.
Et l'alcool, il me semble que c'est bien en Suède, est vendu dans des magasins d'État.
C'est possible, oui.
Il me semble. Hein.
Donc voilà, donc c'est pas si simple, monsieur Le Bigot, je pense que là-dessus... Et ensuite, il nous parle du Portugal et des Pays-Bas, avec des consommations de drogue très élevées, comme pour la cocaïne et l'héroïne, ce qui n'est pas vrai non plus. Voilà. Voilà.
Et le Portugal est à 2,7% de cannabis, et c'est quand même un des pays où... justement, quand ils ont légalisé, ou en tout cas quand ils ont dépénalisé, tout le monde leur disait que ça allait exploser. Au contraire, maintenant le cannabis reste pas très problématique, et au contraire, les héroïnomanes sont bien pris en compte, sont bien soignés, sont bien traités, et sont soignés médicalement et non pas par la prison, voilà. Ce qui n'est pas un soin.
Ouais. Donc voilà un peu. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur ce sujet. Moi, j'avancerais bien.
Je rajouterais juste une connerie qu'a dit Le Bigot. C'était sur quand on a légalisé l'opium en Chine au 19e siècle. Et il dit que la légalisation accroît donc de façon vertigineuse les profits du crime organisé. Alors je rappellerai juste qu'au 19e siècle, c'est quand même les commerçants anglais qui ont imposé à la Chine de légaliser pour leur profit, que c'était pas des mafieux, c'est peut-être des criminels vu que c'est des grands exportateurs et que c'est des grands entrepreneurs.
Des libéraux, des capitalistes.
Et des capitalistes, donc dans ce sens-là, ils sont criminels, mais je ne crois pas qu'ils appartiennent aux mafias. C'est un petit mélange qu'il a fait, il faudrait qu'il relise ses classiques et exactement l'histoire.
La légalisation proposée par Terra Nova, c'est pas une légalisation libérale, justement. C'est sous contrôle et monopole de l'État, ce qui n'était pas le cas ce qui n'était pas complètement le cas en Chine non plus. Donc, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur ce rapport de Terra Nova. J'aimerais bien que pour finir, on parle un petit peu du buzz fait sur le Canavap.
Je t'en prie. Il reste
pas beaucoup de temps, ouais, 2-3 minutes, ouais.
Voilà, donc vous connaissez tous les vaporisateurs. Vous connaissez tous plutôt les
cigarettes électroniques.
Les cigarettes, donc c'est des produits avec des aromates au tabac et un peu de nicotine. Et là, ils y mettraient un petit peu de CBD et quelques odeurs d'herbe.
Voilà, de cannabis, enfin de chanvre, ce qu'il faut pas dire cannabis. Donc, ça a fait le buzz, hein, donc cette semaine, et notamment à cause ou grâce à la sortie de Marisol Touraine, ministre de la Santé, qui n'a pas manqué de se ridiculiser sur le sujet. Pourquoi je dis ça? Parce que quand même, je vais d'abord tout de suite vous lire la réaction du docteur Levenstein, qui est interniste et addictologue président de SOS Addiction, qui s'est pas mal exprimé cette semaine, qui était notamment invité à la Tête au Carré sur France Inter mercredi après-midi. Et dans l'article de Slate.fr, qu'est-ce qu'il disait? Il disait « Le cannabis décidément ne rend pas intelligent, ni ceux qui en fument trop et trop tôt, ni ceux qui n'en fument pas mais parlent droit dans leurs petites bottes. » Voilà. Et sur France Inter, il a carrément dit que la sortie de Marisol Touraine, on était vraiment dans l'incompétence. L'incompétence même générale des politiques, hein, il a expliqué. Et je trouvais très bien sa comparaison, par exemple, avec la bière sans alcool, hein, ce qu'il disait, autant interdire la bière sans alcool, puisque si elle existe, en existant, elle favorise la consommation d'alcool. Et du coup, il faudrait aussi interdire le champomy, qui peut inciter les gens à consommer du champagne. Donc, je trouvais ça très très pertinent. Et ce qu'il disait également, c'était que on était dans un pays où on avait réussi à mettre en place la réduction des risques liés au mésusage des drogues en mettant en place des solutions, et notamment de la substitution pour l'héroïne, des outils de réduction des risques pour le crack. Et pourquoi est-ce qu'on serait la France, le pays où on mettrait en dernier en place des outils de réduction des risques pour l'usage du cannabis? Voilà, c'était très intéressant. Il a clarifié les choses en moins de 10 minutes. Voilà. Alors, c'est quoi cette e-cigarette, comme tu disais, c'est un liquide aromatisé au chanvre, pour ce qu'il faut pas dire cannabis, sans THC, donc sans tétrahydrocannabinol, donc sans substance psychotrope, qui est souvent celle recherchée par les usagers récréatifs, mais là, plutôt composé de CBD, de cannabidiol, qui est un des cannabinols du chanvre, que le cannabidiol a un effet plutôt relaxant, qui ne provoque pas d'ivresse, qui est plutôt à utiliser pour certaines pathologies. Il faut savoir qu'en Israël, ils cultivent un cannabis qui est sans THC et qu'il n'y a que du cannabidiol dedans pour pouvoir le prescrire à certains malades souffrant de certaines pathologies.
Voilà, et entre autres sur les stress post-traumatiques, a priori, ça aurait des très bons résultats. Voilà.
Donc pour finir, il me reste quelques secondes. Pour finir, toujours en parlant de... Alors ça, c'est Michel Henry, je trouve, qui va de son petit mot. Alors plusieurs articles de Michel Henry, quand même. Un article le 16 décembre, un article 17, un article 18. Je vais arriver à trouver sa petite phrase. Voilà, il disait, en ce qui concerne les politiques, à partir du moment où on parle du cannabis, tout de suite, c'est la psychose. Je vais vous parler du dernier article, parce que quand même cette société franco-tchèque avait l'intention de Canavap, avait l'intention de commercialiser en France leur produit, leur e-cigarette. Et donc Marisol Touraine a déclaré qu'elle allait saisir la justice. Et ça a été très rapide, puisque donc on a commencé à en parler lundi dernier. Et le dernier article dans Libé de Michel Henry date du 18. Et c'est intitulé « Le vaporisateur à cannabis ne répond déjà plus ». C'est-à-dire que le parquet de Marseille a tout fait, et en tout cas y est arrivé, pour bloquer la commande en ligne de l'entreprise Canavap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, vous ne pouvez pas commander sur le site de cette entreprise, vous ne pouvez pas procéder à un paiement, puisque la justice a complètement... bloquer la procédure pour pouvoir acheter la fameuse e-cigarette mise en place par la société. Et donc pour terminer, pour finir, je cite Michel Henry, Marisol Touraine n'est pas de cet avis à propos du Canavap et sur le fait qu'il n'y ait pas de THC. Donc Marisol Touraine n'est pas de cet avis, mais elle n'a pas non plus trop cherché à comprendre le simple mot de cannabis déclenchant chez elle une forte réaction allergique contre laquelle la science ne dispose pas actuellement de remèdes connus. Voilà, il faut soigner Marisol Touraine, au secours, vite. On ne sait pas, par contre, quel médicament il faudra lui administrer. Voilà.
Voilà, c'est là-dessus que nous allons finir cette émission. Bonne fin d'année. Et
peut-être à lundi prochain, s'il y a un volontaire ou une volontaire qui veut bien venir m'assister pour l'émission de lundi prochain. Voilà, sinon on vous souhaite une bonne fin d'année, joyeuse fête, bonne année, et à l'année prochaine en 2015, ou sinon à lundi prochain. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous, et merci, et au revoir.
Ciao à tous et à toutes.